Partenaire 2017, le Nouveau Tel Avignon Centre et le Beau Théâtre accueillent la web radio du HOF.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HOF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
De retour dans l'univers foisonnant du Festival HOF d'Avignon, chers amis. Le Festival HOF d'Avignon qui nous réserve des tas de surprises et notamment des spectacles originaux. En veux-tu, en voilà. Et si vous êtes des auditeurs réguliers d'Osmose Radio, vous savez que je m'intéresse aux spectacles de cabaret régulièrement. Je vous parle de cabaret burlesque, hein, c'est mon côté attiré par le stupre et le vice. Mais le cabaret, ça n'est pas que ça, bien entendu. Et ça peut aussi être des spectacles où moi-même je me retrouve très très gamin. Je prends un plaisir enfantin, me laisser gentiment manipuler par des tours de magie, par des trucages, des effets spéciaux de théâtre ou de cinéma. Et c'est un petit peu tout ça l'objet du spectacle pour lequel je reçois la compagnie du théâtre à Bretelles. Bonjour à tous.
Bonjour.
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 Alors vous êtes très nombreux et sur scène et avec nous aujourd'hui. Et donc je vais faire les présentations très rapidement. Anne Kézémande et Laurent Berman, pardon, vous êtes les fondateurs de la compagnie Le Théâtre à Bretelles.
Absolument.
Tout près de vous, il y a les musiciens Laurent Greenspan.
Oui.
Et votre collègue Betsy Schlesinger.
Oui.
Et enfin, le prestidigitateur ou le magicien, c'est selon, Sylvain Solustri. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous aurez l'occasion de nous expliquer un petit peu peut-être la nuance entre la prestidigitation et la magie, mais pour le moment, je tiens quand même à parler du personnage charismatique, quoique largement inconnu finalement, auquel vous vous êtes consacré pour ce spectacle, Méliès, cabaret magique. C'est tous les soirs du 20 au 30 juillet à l'espace Alia, qui est rue Guillaume Puy, à 19h. Alors, du 20 au 30 juillet, disais-je, pour une seconde moitié du festival, pour autant, vous étiez déjà présent pendant cette première moitié, puisque vous présentiez un autre spectacle.
Oui, nous sommes un peu spécialisés dans le sauvetage en Saint-Bernard des gens méconnus, injustement méconnus. Donc la première partie du festival, nous sommes intéressés à Macorlan, très largement méconnu, et maintenant on essaie de sauver Méliès de l'oubli, parce qu'on trouve qu'il est vraiment très très injustement méconnu.
Voilà pourquoi je disais tout à l'heure un personnage charismatique qu'on connaît tous, dont on connaît tous le nom et une partie du travail, et pourtant qu'on ignore par bien des aspects. Méliès, pour lequel on a tous vu évidemment Le Voyage dans la Lune, qui nous aura fait rêver et qui préfigure les trucages de cinéma tels qu'on les voit encore aujourd'hui. Et pourtant, moi-même, j'ai découvert énormément d'aspects de son œuvre grâce à votre spectacle. Et on va pouvoir voir ça ensemble tout de suite. Alors Méliès, cabaret magique. C'est vrai qu'il y a quelque chose de magique dans le travail de Méliès, qui nous apparaît en tout cas comme magique, par toutes les petites trouvailles de trucage. Comment vous avez été amené à découvrir ça, Anne et Laurent ?
Alors nous avons rencontré, il y a pas mal de temps déjà, la petite fille de Georges Méliès, qui donc a toute sa vie œuvré pour faire connaître son grand-père, qui a été, pourquoi mal connu, je vais essayer d'être bref, c'est pas évident. Tout le monde connaît Louis Lumière, les gens disent Lumière, il y a l'école Lumière, Lumière, l'inventeur du cinéma.
À Lyon,
et il y a une confusion profonde entre le fait que Lumière était un ingénieur qui a inventé la caméra, qu'il a perfectionné toute sa vie, mais Méliès, qui a vu Lumière présenter sa caméra à l'époque, était un magicien sur les grands boulevards à Paris. C'était un monsieur qui avait pignon sur rue, avec un théâtre reconnu, très très grand spécialiste de magie, fasciné par la caméra de Louis Lumière. Il lui a demandé s'il pouvait s'en servir. Louis Lumière l'a envoyé balader. Il a fabriqué sa caméra lui-même. Et la grande différence, c'est que Lumière a inventé la technique, mais la fiction cinématographique, le 7e art, rien que ça, c'est M. Méliès qui l'a inventé. Et les trucages, il les a trouvés parce qu'il était magicien. Et c'est lui qui a trouvé les trucages avec les bobines, avec les pellicules, avec la surimpression, les incrustations, les fondus enchaînés, tout ce vocabulaire qu'on retrouve dans le numérique, c'est lui qui a tout trouvé. Et il était également peintre, comédien, danseur. Et donc ces films sont d'une fantaisie incroyable. Et si on en a retrouvé si peu et si rarement, c'est qu'il avait brûlé tous ses négatifs à la fin de sa vie, car il a été ruiné. Et sauf Le Voyage dans la Lune, qui a survécu, ce qui fait que beaucoup de gens le connaissent. Et les autres films sont très peu diffusés.
Et le voyage dans la Lune a été copié à maintes reprises par dans le monde entier, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne, etc. C'est aussi grâce à ça qu'on le connaît. Je voulais dire.
Mais on évoquait tout à l'heure d'autres aspects méconnus de Méliès, par exemple, le fait, tout le monde ignore, parce que je ne suis pas d'accord avec vous, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas du tout Méliès. Hein. Vous êtes drôlement optimiste d'imaginer que tout le monde connaît Méliès.
Ah, vous m'avez cassé là.
Non, j'ai juste rectifié. Ah,
j'étais très joyeux en sortant de votre spectacle, ouais, hier, là, je me sens tout triste.
C'est pas grave, vous remettrez, je vous promets. Non, c'est... Un des aspects de Méliès que même les connaisseurs de Méliès ignorent souvent, c'est qu'il s'est engagé dans l'affaire Dreyfus. Et qu'il a tourné 11 films d'une minute chacun pour l'affaire Dreyfus, et que ces films ont été interdits par les préfets. C'est-à-dire ce fantaisiste qu'on présente comme un naïf, comme un auteur pour enfants, etc., était aussi un homme engagé, un poète engagé.
Et j'ajouterais qu'il a également à l'époque, ce qui est incroyable, fait un film contre la peine de mort. Fallait faire ça en 1900, hein.
Mais peut-être que là-dessus, Sylvain, qui est aussi un grand connaisseur de Méliès, Sylvain, on l'a connu par Madeleine Méliès. C'est
d'accord.
Comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ah, mais c'est vrai que ce spectacle s'est élaboré de par le temps et par les rencontres, notamment, vous m'en parliez hors micro. Et alors vous, Sylvain, comment vous avez été amené à vous intéresser à Méliès? Vous avez vu Le Voyage dans la Lune quand vous étiez petit? Ça a marqué votre vie.
J'ai vu des films de Méliès quand j'étais petit, notamment au Cinéac Montparnasse, que vous n'avez pas connu parce que vous êtes trop jeune.
Et parce que je suis pas à Paris aussi.
Et parce que vous n'êtes pas à Paris. Mais surtout, j'ai rencontré Madeleine Maltet Méliès, qui donc vit toujours, hein, la petite fille de Méliès, qui a 93 ans aujourd'hui, une accorte jeune femme. Je l'ai rencontrée par les magiciens, parce que Méliès a continué toute sa vie à pratiquer la prestidigitation, la magie. Elle nous raconte que quand elle était petite, il lui faisait sortir des pièces de monnaie ou des cigarettes de ses oreilles, de ses cheveux, que ça l'énervait beaucoup. Bon, et Méliès avait conservé, il avait même été le fondateur du SIAP, le syndicat des magiciens de l'époque. Et toute sa vie, il a eu contact avec le monde magique, et même les magiciens avaient organisé des galas en sa faveur, puisque il avait pas beaucoup de sous à la fin de sa vie, et le produit de ces gars-là lui est revenu grâce aux magiciens. Et Madeleine a toujours gardé une grande amitié pour le monde des magiciens. C'est comme ça que je l'ai connu et que j'ai rencontré Anne et Laurent par la même occasion.
La solidarité de caste a parfois du bon, je vois. Parce qu'effectivement, Méliès a fini ruiné, ce qui est une injustice fondamentale, mais bon, vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors, vous aviez précisé, donc les frères Lumière ont inventé le cinéma, Méliès a inventé les trucages. Bon, après, les frères Pathé sont arrivés en industrie. Avec le côté industriel de la chose, mais c'est un autre débat. Et donc Méliès, effectivement, comme vous le rappeliez justement, est à l'origine d'énormément de trucages qu'on utilise encore aujourd'hui, et des aspects techniques tout à fait fondamentaux. Et alors, c'est un homme dont on pourrait dire qu'il était à la fois ceinture et bretelle, mais vous êtes la compagnie du théâtre à bretelles, et vous avez créé cette compagnie, vous, Laurent et Anne, à la fin des années 70, je crois.
C'est ça, nous on a commencé par du théâtre de rue. On a beaucoup joué dans la rue. Anne joue de l'accordéon, donc elle porte des bretelles. Mmh. Il y avait une boîte à images qui se portait avec des bretelles. Et puis un jour, c'est vrai que le premier spectacle qu'on a fait sur Méliès était une commande du Festival d'Aurillac, qui est le festival de rue.
Le festival de théâtre de rue.
Et on avait coproduit, enfin une coproduction complexe, une baraque foraine de 60 places, avec le baptême de Madeleine Méliès.
Une baraque de 60 places, c'est quand même pas mal, c'est un beau travail.
Oui, c'était comme un petit cirque, si vous voulez, mais avec une façade d'un style forain, comme à l'époque où Méliès diffusait ses films dans les fêtes foraines, car il n'y avait pas de salle de cinéma. La première diffusion, c'était les forains.
Ou dans les arrières-salles de café aussi, un peu.
Peut-être, c'est ça. Et donc, on jouait donc dehors et devant, et dedans, on racontait la vie de Georges Méliès, toute son œuvre, etc. C'était carrément didactique. Volontairement didactique, avec une vingtaine de films accompagnés déjà au piano. Et puis plus tard, on a repris d'autres formules, et notamment plus théâtralisées. Et là, c'est là qu'interviennent Laurent et Betsy et Sylvain. C'est qu'on a voulu que les pianistes soient aussi des pianistes, des acteurs, des personnages, et que plutôt que de faire une heure et demie de projection, il est l'arrivée d'un vrai magicien dont les numéros sont en relation avec ce qu'on vient de voir dans les films.
Oui, parce qu'il y a la structure du spectacle, on aura l'occasion d'y revenir, alterne les projections, les numéros de prestidigitation, ainsi que les explications, l'aspect conférence et musical. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, que le... depuis 30 ans qu'on existe, même plus.
On vous êtes jamais... la compagnie est quadragénaire, comme
voilà,
moi.
Quadragénaire, voilà. Vous êtes... Elle est née avec vous.
Voilà, voilà. L'inverse. Hein.
C'est le troisième, on n'a pas fait que ça, mais c'est le troisième spectacle qu'on consacre à Méliès. C'est vous dire à quel point on tient à lui. Mais je voudrais dire aussi que pour ce troisième spectacle Méliès, il y a eu un petit tour de magie. Parce que nous dirigeons aussi tous les deux à Paris le Théâtre de la Vieille Grille, et quand on a voulu le créer, eh ben on a auditionné, comme on dit, des musiciens. Et, individuellement, Monsieur Greenspan, qu'on connaissait par ailleurs, qui a comme accompagnateur d'autres chanteuses, et Betsy Schlesinger, aussi comme accompagnatrice. Et puis, bah, c'était les deux meilleurs qu'on a retenus, et on leur a dit, bah, comme ça, vous pourrez jouer en alternance. Ils ont dit, non, 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 on voudrait jouer à quatre mains.
Parce que c'est ça qui m'a intrigué aussi dans la présentation de votre spectacle, c'est que, donc, il y a ce cabaret, ce Méliès cabaret magique. Alors, il y a quelque temps, vous avez fait un cabaret Kafka, faudra m'en parler un de ces jours. Mais, effectivement, c'est pas, ça fait très très longtemps, je vois dans les spectacles que vous élaborez depuis 40 ans, que vous intéressez à Méliès. C'est pour le spectacle qui nous intéresse au Festival Off 2017. Vous présentez les choses ainsi, il y a deux comédiens à 3 ou 4 voix, un magicien à 12 ou 15 doigts, un piano à 2 ou 4 mains, et enfin un régisseur à multiples casquettes. C'est plutôt bien trouvé. Comment vous vous placez? Vous placez tous les deux, les musiciens, au sein de cette création, sachant qu'à l'époque de Méliès, eh bien, il n'y avait pas de cinéma sonore et du coup, les accompagnements étaient faits en direct.
Tout à fait. J'ai ressenti que les films de Méliès étaient des véritables partitions musicales. Donc, au début, quand Anne et Laurent m'ont très gentiment demandé de mettre de la musique sur ces fabuleuses vues animées, comme on disait à l'époque, ces images de Georges Méliès, je me suis posé quelques petites questions. Et puis d'un coup, comme une sorte de flash, en faisant mes courses ou en, voilà, comme ça, ou en discutant avec Betsy, ma femme, et des idées de musique me sont venues. Voilà, d'une manière très très inopinée, d'une manière très spontanée. Voilà, donc j'ai pas choisi un genre de musique particulier. J'ai composé, écrit des musiques que je sentais pour chaque film. Voilà. Et encore une fois, j'avais l'impression que c'était Georges Méliès qui me disait, Laurent, il faut faire ceci maintenant, il faut faire telle musique, il faut composer telle musique maintenant. J'ai eu l'impression. Et d'ailleurs, Georges Méliès, comme on l'a déjà dit, était aussi musicien amateur, mais voilà. Et voilà.
Je voulais juste aussi préciser deux choses. D'abord, nous sommes un couple au piano, comme dans la ville. C'est pour ça qu'on s'est proposé à quatre mains.
Une histoire d'amour et de famille. Comme chez Méliès, qui lui aussi débauchait ses filles et sa femme et tout.
Voilà. Exactement.
Mais pour rebondir ce qu'il a dit, Laurent, sur les films de Georges Méliès, il a une précision énorme. Le rythme des films, c'est d'une telle manière que quand on joue, chaque fois, on a l'impression de jouer avec Georges Méliès, qu'on fasse la musique de chambre avec ses films. Mais c'est extraordinaire.
Je dois dire que Anne, Laurent et Betsy m'ont beaucoup aidé. Parce qu'au départ, il fallait... Donc, je me suis dit, il faut que vraiment la fin... d'une musique tombe avec une fin inachevée d'un film, parce qu'il y a certains films qui se terminent, si j'ose dire, un petit peu qui ont été brûlés un peu en queue de poisson, donc il fallait vraiment faire une fin musicale, voilà, composer une fin musicale qui corresponde avec la fin du film, voilà, qui n'est pas vraiment une fin quelquefois, puisque les films ont été brûlés ou abîmés avec le temps, voilà. Donc, c'est un vrai plaisir, et je dois dire qu'on renouvelle toujours à chaque fois qu'on est au piano. Notre plaisir est renouvelé, décuplé à chaque fois qu'on est dans ce spectacle.
Et d'un soir sur l'autre, c'est parfois peut-être pas tout à fait la même chose, je suppose.
Absolument, c'est même... très différent.
Et ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, ce spectacle a différents aspects. C'est à la fois une conférence dans laquelle moi j'ai appris plein de trucs, ça je l'avoue sans embâge, mais c'est aussi des projections de films, en l'occurrence des films Méliès bien entendu, et de la musique qui nous ramène aussi un petit peu dans l'ambiance sonore de l'époque. Et enfin, vous n'êtes pas en reste, Sylvain, puisque vous apportez le côté prestidigitation, mais en direct, qui nous rappelle un petit peu l'œuvre de Méliès et qui nous ramène à cet univers. Alors pourtant, ce n'est pas vous qui faites le premier trucage ou le premier tour du spectacle. Ce sont bien les musiciens dont Betsy dissimule son collègue par un voile. Donc on a l'impression d'un piano qui tourne tout seul. Et puis dès qu'elle tombe le voile, on vous découvre Laurent qui est en train de jouer derrière.
Ah oui.
Mais vous n'êtes pas en reste, digeste Sylvain, puisque vous faites énormément de tours durant le spectacle. Alors, prestidigitateur ou magicien? Comment voulez-vous que je vous appelle?
Déjà, appelez-moi Sylvain.
Voilà, hein, pour commencer.
Et puis, c'est une querelle de vocabulaire, prestidigitateur. Alors ça, c'est un mot qui a été inventé en 1812 par un certain Jules de Revers. On était sous Napoléon, hein, c'est pas d'hier.
Ah oui.
Et aujourd'hui, comme on aime bien tout ce qui va vite, on dit magicien, mais c'est rigoureusement la même chose. C'est-à-dire que c'est pareil, mais c'est pas la même chose. Vous voyez ce que je veux dire?
Alors là, vous utilisez la magie des mots pour m'embrouiller.
Voilà, exactement. Exactement.
Lui aussi est multicasquette, comme Méliès.
Absolument. Mais Méliès, c'était l'homme à tout faire. Il savait tout faire. Il savait dessiner, peindre, caricaturer. Il faisait de la magie. Il chantait. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est un maître. Un maître absolu. 1m50.
Il est trop fort. Et effectivement, Méliès, alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai découvert pas mal d'aspects de son travail et technique, puisque c'est lui qui a amené aussi la colorisation directement des pellicules en travaillant sur les négatifs. Mais il a aussi certains aspects de sa personnalité que j'ignorais. Par exemple, on était dans l'époque un peu de l'anarchisme, la fin du 19e siècle, le début du 20e siècle. Alors, il y avait les débuts du Canard enchaîné en 1915, il y avait la bande à Bono qui était autrement plus violent. Méliès, lui aussi, avait ce côté gentiment Anna, puisqu'il brocardait les flics dans ses films, mais aussi, ça allait plus loin, il était Dreyfusard à l'époque de l'affaire Dreyfus, de la
Bien sûr, mais ça avait commencé déjà avant. Il était caricaturiste de presse,
ouais.
Où il avait travaillé avec son ami Laborie, qui lui écrivait l'avocat de Dreyfus. Mmh. Il était très anti-boulanger, d'abord. Pour évoquer
oui,
ces années-là.
Le boulangisme était un espèce de césarisme politique qui avait lieu à la fin du 19e siècle.
Qui voulait renverser la République, tout simplement.
C'était l'extrême droite de l'époque.
Hein. Oui. Voilà, exactement.
Donc il était très opposé à ça, donc ça a commencé bien avant les histoires du Canard enchaîné. Et il a toujours été, disons, de gauche. Sans être un anarchiste déclaré, en tout cas il était très très anti-droite.
D'accord, et l'extrême droite, effectivement, royaliste et tout.
Effectivement.
C'était les débuts de l'action française aussi à l'époque.
Oui, mais absolument. Et tout le monde, justement, après, y compris pour se débarrasser de lui et le mieux oublier, a prétendu qu'il était tout juste bon à faire des contes pour enfants, parce qu'il a adapté beaucoup de contes, que c'était un naïf, que c'était un gentil garçon, et c'est tout. Alors, c'est tellement faux que moi, j'ai au moins voulu marquer le coup avec l'affaire Dreyfus.
Et pour revenir à cet aspect politique, là on l'a pas mis dans le spectacle parce que ce serait trop long et on n'a pas beaucoup de temps en Avignon dans les spectacles, mais on l'avait raconté à d'autres époques, c'est que je reviens sur cette affaire Lumière, sur cette rivalité de départ qui commence en 1895, puisque Lumière, quand on lui demande de fournir sa caméra, répond à Méliès, ceci est un appareil scientifique qui n'est pas fait pour les saltimbanques et qui n'a aucun avenir commercial.
C'est comme le maréchal Foch qui disait, l'avion est une invention intéressante, mais ça n'a aucun intérêt militaire. Bien sûr.
Donc ça commence très mal, et beaucoup plus tard, en 1936, quand on retrouve Méliès, qui était un peu isolé, qui vivait d'un petit commerce
séminal,
très modestement. C'est les gens de la Cinémathèque française qui vont l'honorer et le retrouver. Il va rencontrer en 1936-37 Jacques Prévert. Il commence à fréquenter cette mouvance. René Clair. Et il n'aura pas connu la Deuxième Guerre mondiale. Il meurt en 1938. Deux ans plus tard, Monsieur Lumière collabore directement avec les nazis pour améliorer sa caméra. Et c'était un collabo de première bourre.
Ces propos n'engagent que vous, mais je sens quand même que vous en voulez encore un siècle après à Louis Lumière. Il y a des aspects discutables dans la personnalité, mais avoir méprisé Méliès n'était pas une très bonne intuition. Là, je crois qu'on est tous d'accord avec vous. Il y a d'autres aspects de la personnalité de Méliès, par contre, que vous nous faites découvrir. Il y a aussi des détails coquins dans son œuvre, notamment la Tentation de Saint-Antoine qui est adaptée, par exemple. C'est gentil. Hein. Les enfants pourront apprécier aussi ces aspects de l'œuvre. Mais il y a comme ça, c'est des petits détails aussi un petit peu pour adultes entre guillemets. Et aussi vous citez quelque chose qui marchait bien à l'époque, c'était le théâtre du Grand Guignol.
Oui.
Avec des effets spéciaux un peu horrifiques pour,
alors là je pense que Sylvain aussi,
c'est le gothique de l'époque.
Sylvain est mieux placé que nous pour en parler.
Oh, oui, si on veut, dans la mesure où j'ai fait effectivement des mises en scène de pièces du Grand Guignol. Il y avait effectivement, c'est le côté qu'on a retenu, le côté effets spéciaux, mais il y a d'autres choses aussi. Il y a par exemple la pièce la plus connue du Grand Guignol, ça s'appelle Au téléphone. Il n'y a pas un seul effet spécial, effet sanglant, c'est le comédien qui fait tout. L'histoire est très simple, c'est un monsieur qui, à distance, avec le téléphone, invention moderne, va assister de loin, alors qu'il ne peut rien faire, au meurtre de sa femme, en direct. Elle est assassinée. Et c'est au comédien de tout jouer. Hein. Et là, il n'y a pas d'effet spécial.
Alors ça, ça fait penser au film Scream, le film d'horreur qui avait beaucoup marché il y a 20 ans.
Voilà,
quoi.
Bah, on n'a rien inventé. Hein.
Tout à fait.
Ça, au téléphone, c'est André Delors dans 1898, un truc comme ça. On est en pleine période Méliès. Mais effectivement, il y a aussi les pièces à effets spéciaux qui sont évidemment pour les magiciens à monter quelque chose d'amusant et d'agréable à faire parce qu'il faut trouver le moyen de couper une main en direct, de faire des choses comme ça. Alors au cinéma, c'est relativement facile parce qu'on a le cadre. Et tout ce qui se passe en dehors du cadre, on le voit pas. Donc si on a un technicien à l'extérieur qui appuie sur des poires à sang pour faire gicler le sang, on le voit pas. Alors qu'au théâtre, on voit tout. On a une vision totale. Alors il faut se débrouiller pour cacher les trucs derrière un canapé ou en coulisses, et c'est beaucoup plus difficile. C'est amusant. Mais le Grand Guignol, c'est vraiment un genre extraordinaire.
Et qui a donné ses lettres de noblesse au cinéma d'horreur d'aujourd'hui. Georges Romero est mort il y a quelques temps, mais je crois que lui aussi aurait adoré Méliès pour les trucages qu'il a trouvé dans ses films de zombies. Et pour conclure, pour rebondir ce que vous disiez tout à l'heure à propos de Louis Lumière, c'est vrai que des gens comme Griffith, le réalisateur américain qui a fait Birth of a Nation, et Charlie Chaplin lui-même ont dit que Méliès leur avait apporté beaucoup. Voilà, donc,
et tout récemment, il y a quelqu'un qui est mort à la télévision qui a été honoré par des émissions spéciales, c'est Jean-Christophe Averty. Et regardez bien les trucages de Jean, et les montages vidéo de Jean-Christophe Averty, c'est du pur Méliès, mais en vidéo.
D'accord.
Et ouais. Juste pour conclure, quand je dis que Méliès, le prétendu naïf, est le précurseur de Martin Scorsese, c'est à cause de ce truc grossier qui a eu beaucoup de mal à passer sur le Christ en croix qui se transforme en jolie fille.
Oui.
Eh ben, c'est devenu l'annonce et l'affiche d'un film de Scorsese, j'ai oublié le titre, pour lequel le cinéma à Paris, la dernière tentation du Christ, le cinéma où c'était projeté a sauté.
Oui, c'était la fin des années 80.
Il n'a pas sauté. On a brûlé des fauteuils, mais c'est déjà pas mal. Hein.
Ouais.
Enfin, c'est un tas d'allumés qu'on fait.
Enfin,
le coup,
c'était
ce,
vous voyez, du mariage pour tous aujourd'hui, disons. Hein. Ah, anti-mariage pour tous.
Et c'est vrai que c'était une période tellement tendue au niveau politique, au niveau société. Cette fin du 19e siècle, ce qu'on a appelé la belle époque, mais vous avez le bon goût de rappeler que ce n'était pas la belle époque pour tout le monde. Et j'invite les gens, malgré tout, à aller voir ce spectacle dans lequel on aborde avec beaucoup d'humour des sujets sérieux et qui est présenté sous forme de conférence, mais très divertissante parce que c'est quand même un spectacle de cabaret. Mais en même temps, on apprend plein de choses. Moi, le premier, c'est donc ce Méliès, cabaret magique, pardon, à 19h tous les soirs à l'Espace Alia du 20 au 30 juillet. Merci à tous
Merci beaucoup. Bye.
Et pour rendre hommage à la musique qu'on entendait à l'époque, qui accompagnait à la rigueur parfois certains des premiers films de cinéma, je vous propose un peu de ragtime avec, pour commencer, Scott Joplin, Maple Leaf Rag.